rendez-vous à 3 événements musicaux et gourmands lors du Radiothon de CKRL, ici même à la station. Le 26 avril dès 17h, c'est l'apéro d'ouverture avec The Blaze Veluto Collection en spectacle. Samedi 27 avril dès midi, viens dîner avec Marco Cagliari en prestation. Et le dimanche 28 avril dès 11h, le restaurant Le Champlain du Château Frontenac prend place à CKRL pour te servir ton brunch. Réserve ton billet VIP sur ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. Il n'y a que 12 places par événement. Alors, tu viens nous rejoindre?
Bien y penser avec Jean-François Arthaud. Alors bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute pour notre émission à Bien y penser. Ce matin, je vais aborder avec vous la vie et la pensée de Socrate. On ne l'avait pas fait encore, et il faut bien dire, à tout seigneur, tout honneur, en fait, c'est probablement le premier d'importance, parce que bien sûr, il y a eu les prix socratiques, mais quand même, c'est très certainement le premier qui a eu une importance suffisante, ou à qui on a donné une importance suffisante, on verra tout à l'heure, et en titre de philosophe, bien sûr. Et on ne peut pas parler de philosophie, sérieusement, je pense, sans aborder, bien sûr, Socrate. Socrate, c'est le premier, c'est le plus grand, c'est le plus important. C'est lui qui a posé les jalons d'une pensée philosophique, littéralement. Alors, je croyais qu'on ne pouvait pas, justement, se passer de ce passage vers la pensée et l'échafaudage philosophique qui est proposé par Socrate. Donc, on va prendre 60 minutes ensemble ce matin pour parler de Socrate, parler de sa pensée, mais toujours à travers les autres, parce que ça, c'est une de ses caractéristiques, justement. Il n'a laissé, Socrate, aucun écrit. Il n'y a rien qui provient de lui. Alors, il y a des histoires à son égard qui ont été rapportées par des gens sérieux, là, par exemple par Platon ou par Xénophon, mais il n'y a pas d'histoire ou d'écrit qu'il a lui-même laissé. Il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas de volume qu'il a laissé. Alors, il n'y a rien de ça qui s'est passé. Socrate, d'abord, en quelques mots peut-être, bien, c'est un philosophe grec, bien sûr, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Même la date de sa naissance et la date de sa mort sont incertaines, si on va dire ça comme ça. Il serait né vers moins 470, moins 469. Il serait mort en moins 399. Je vous dis moins, évidemment, parce que c'est avant Jésus-Christ, là. Je vous le répète, c'est un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est connu pour l'essentiel, Socrate, comme étant le créateur de la philosophie morale, c'est-à-dire du bon, du mal, du bien, dans une certaine mesure. Il faut toujours faire attention quand, je pense, peut-être parce que je ne suis pas un expert de Socrate, me direz-vous, mais il faut toujours faire attention lorsqu'on expose la pensée de Socrate à être le moins influencé possible. Puis je le dis comme ça parce que inévitablement, je pense qu'on est influencé, mais quand même. Il faut l'être le moins possible par d'autres philosophes qui sont venus bien après lui. Toujours embêtant de porter jugement sur la philosophie d'un philosophe aussi ancien que Socrate, en faisant abstraction complètement des autres notions philosophiques qui ont été apportées par la suite par d'autres philosophes de la philosophie morale. Ou d'autres philosophes, Hegel, qu'on a peut-être plus étudié, ou Wittgenstein, ou Schopenhauer, dont on a parlé, ou d'autres encore, Descartes, ou bon, Saint-Thomas d'Aquin, n'importe qui. Toujours embêtant parce que ce sont des biais qui, bien souvent, sont naturels, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que naturellement, on va interpréter consciemment ou inconsciemment des notions qui sont présentées par Socrate en ayant tout en filigrane une pensée développée à travers les siècles, bien sûr, qui va venir soit corroborer, soit infirmer la pensée de Socrate. Alors, c'est embêtant de le faire, disons, de façon pure. Et c'est une ornière, je vous dirais, dans laquelle il faut éviter de sombrer. Je vous le disais, Socrate n'a laissé aucun écrit, de sorte que sa pensée et sa réputation se sont transmises et se sont même construites, j'ai envie de vous dire, à l'égard de sa réputation, par des témoignages indirects. On va dire en droit que c'est une preuve circonstancielle, c'est-à-dire qu'on va décrire un événement, décrire une situation, raconter une histoire dans laquelle se retrouve Socrate, et c'est à partir de cette description-là, toute factuelle soit-elle, toute bonne soit-elle ou toute mauvaise soit-elle, qu'on va extirper une connaissance bien indirecte, évidemment, de Socrate. Ses disciples, il y en a plusieurs quand même, mais les deux plus connus sont Platon et Xénophon. Et ce sont eux qui ont œuvré à maintenir l'image de Socrate, et ils l'ont, Socrate, les deux, à la fois Platon et à la fois Xénophon, mis en scène dans leurs œuvres respectives. Il y a aussi les philosophes Démétrios de Phalère et Maxime de Tyr qui ont écrit que Socrate est mort à l'âge de 70 ans. Mais je vous le disais en entrée d'émission, même ça, c'est pas clair. Ça semble un peu curieux, mais même la date de sa naissance et la date de sa mort sont pas claires. Alors, on dit qu'il serait décédé à l'âge de 70 ans. En fait, Socrate est devenu, c'est à tout le moins l'héritage qu'il a laissé, et c'est de cette façon-là que l'histoire l'a jugé aussi, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un jugement historique qui est porté à l'égard de Socrate. Donc, Socrate est devenu l'un des penseurs les plus illustres, les plus importants certainement, de l'histoire de la philosophie. Bien des éléments l'ont rendu important, et un de ces éléments-là, bien sûr, c'est la qualité de sa pensée, la qualité de sa réflexion, puis on verra sa forme d'argumentation qui était un peu torieuse. Ma grand-mère aurait dit ça. Il y avait une forme torieuse d'argumentation. Mais un des éléments qui a participé à la création de son mythe, il y a presque un mythe qui entoure Socrate d'ailleurs, c'est sa condamnation à mort. Et la présence très fréquente de cette condamnation à mort dans les dialogues de Platon. Tous ceux ou à peu près qui ont fait de la philosophie au niveau collégial, au cégep, ont très certainement entendu parler de Platon, et ils ont lu des œuvres de Platon dans lesquelles œuvres on retrouvait bien souvent des références à son maître, à Socrate. Donc c'est à la fois sa condamnation à mort et la présence de cette condamnation à mort et la présence de Socrate dans les œuvres de Platon qui ont contribué à faire de Socrate plus ou moins une icône de la philosophie. D'ailleurs, la figure socratique a été discutée, reprise et réinterprétée jusqu'à cette époque que nous vivons. Il faut voir les statues de Socrate, le visage de Socrate. Bon, certaines rumeurs, appelons ça des rumeurs, là, participaient beaucoup de la laideur qui s'était acharnée sur Socrate, semble-t-il. Bon, évidemment, ça aussi, c'est un peu controversé. C'est pas si clair que ça. Maintenant, cette image-là, cette icône de Socrate qui représente en quelque sorte la sagesse de l'humanité, je la compare un peu à cette photo d'Albert Einstein qui représente, elle, cette photo, l'intelligence de l'humanité. Alors, ils sont devenus un peu des icônes tous les deux, évidemment à plusieurs années de distance l'un de l'autre, mais quand même, c'est un peu de la même nature. Donc, Socrate, on l'a beaucoup utilisé pour asseoir justement cette sagesse de l'humanité et donner l'image du visage de Socrate à cette sagesse humaine. Il faut bien comprendre aussi que Socrate est célébré bien au-delà de la sphère philosophique, et son personnage est entouré de toutes sortes de légendes. Là, on va en parler de certaines d'entre elles un petit peu plus tard. Donc, en dépit de l'influence culturelle, très peu de choses sont connues avec certitude sur Socrate. Et de ce qui fait aussi le cœur de sa pensée. Même ça, c'est pas très clair. Là, j'ai l'air de vous dire ce matin que tous les commentateurs de Socrate sont à peu près brouillons ou approximatifs. C'est pas ce que je dis, là. Il y a quand même une recherche sérieuse qui est faite à l'égard des œuvres et de la pensée de Socrate, mais il y a quand même une certaine incertitude, et il faut le savoir. Il faut savoir composer avec elle, cette incertitude-là. Il y a une incertitude qui persiste à l'égard de la pensée et de la vie de Socrate. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les témoignages à l'égard de Socrate sont souvent discordants et que la restitution de sa vie, hein, le rendu de sa vie, ou encore de sa pensée, c'est une approche sur laquelle les spécialistes de Socrate, dont je ne suis pas, bien d'évidence, les spécialistes de Socrate ne s'accordent pas. Quelques éléments de sa vie, de sa biographie peut-être, pour commencer, éléments qui sont plutôt démontrés. En fait, la plupart de nos connaissances sur la vie de Socrate concernent son procès de 399. Hein, on le verra plus tard aussi. Il a eu un procès à la fin duquel procès il était condamné à mort. Et on va voir que les connaissances que nous avons de Socrate tiennent à cet événement majeur-là, un événement public au surcroît, qui était son procès. Il va naître vers 471 avant Jésus-Christ. Il est le fils de Sophronisque et de Phénarète. Son père était sculpteur ou encore tailleur de pierre et sa mère était une sage-femme. Il est toutefois possible que le nom de sa mère, qui signifie « faire apparaître la vertu », hein, Phénarète en grec c'est « faire apparaître la vertu », il est donc possible que le nom de sa mère et son métier ne soit qu'une invention destinée à souligner les propos de Socrate sur la maïeutique. D'ailleurs, Socrate avait un demi-frère, Patroclès, fils de Chérédème, qui était le premier mari de sa mère. Donc, il avait un demi-frère, Socrate, qui s'appelait Patroclès. Possible aussi qu'on ait pas nécessairement inventé le prénom de sa mère, non plus que son métier, mais qu'on ait un peu parfois exacerbé ou encore exagéré l'importance de ces éléments-là dans la vie de Socrate. Et pour avoir quand même un peu lu sur Socrate et sur son entourage, ça semble être un élément fréquemment présent, je vous dirais. Cette exagération ou cette exacerbération qu'on porte à des éléments, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'écrit de Socrate. Donc, l'exagération qu'on va parfois prêter à des événements vont faire en sorte qu'on aura une lumière différente qui sera portée sur un élément de sa vie ou sur un élément de sa pensée, lumières qui ne sont pas nécessairement véritables. Bon. Je vous le disais, les renseignements sur sa vie privée sont peu démontrés, sont parfois même contradictoires. La tradition qui vient de Platon et Xénophon le donne pour marié à une dame qui s'appelait Xanthippe vers 415 avant Jésus-Christ. Et selon une tradition douteuse, antisocratique, remontant à Aristote, en fait, Socrate aurait peut-être même été bigame, imaginez-vous. Alors, il y a toutes sortes de rumeurs, toutes sortes d'histoires qui circulent sur Socrate. Et il y en a une qui en faisait un bigame. On dit qu'il aurait été marié à la fois à Xanthippe et à Myrto, petite fille d'Aristide le Juste. Il aurait eu trois enfants de Xanthippe, à laquelle la tradition fait une réputation de mégère, d'ailleurs. Il aurait eu trois enfants, donc Lamproclès, qui est l'aîné, selon Xénophon, Sophronisque et Mexénène. En dépit du physique peu avantageux que lui prêtent Platon et Xénophon, donc c'est Platon et Xénophon qui vont révéler, en quelque sorte, la laideur de Socrate, laideur physique, on s'entend, là, la laideur physique de Socrate. On dit que Socrate est un séducteur de jeunes gens au point d'être accompagné par un groupe d'admirateurs imitant son mode de vie. Hein, c'est une espèce de prophète. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présente. Une espèce de prophète, d'évangéliste, je vous dirais, qui comme ça s'adresse à son entourage, à sa cour, on aurait dit à une autre époque, et qui convainc justement comme ça ses disciples, je pense que le mot est bien choisi, là, qui convainc ses disciples de la justesse de sa réflexion philosophique. Curieusement, Socrate va être présenté par Platon comme étant quelqu'un de pauvre, alors que Xénophon ne trouvera pas que Socrate est pauvre. Il va plutôt dire, Xénophon, que Socrate avait peu de besoins et que donc c'était pas utile pour Socrate d'avoir une grande fortune. Alors c'est comme s'il avait fait le choix d'avoir peu de moyens financiers parce qu'il avait somme toute peu de besoins à combler. Alors que du côté de Platon, on va littéralement présenter Socrate comme étant quelqu'un de pauvre. On ne connaît par ailleurs à Socrate pas d'autre activité que la philosophie. On en connaît somme toute assez peu sur sa vie. On ne sait guère trop ce qui l'intéressait, hormis la philosophie, bien sûr, c'est l'élément qu'on veut toujours faire ressortir de sa vie. Mais au-delà de la philosophie, est-ce qu'il s'intéressait à autre chose, aux sciences, à la médecine, aux mathématiques, par exemple? Au sport, bon, c'est un grec, on sait l'importance que les sports pouvaient représenter pour les Grecs. On ne sait pas pour Socrate, on n'a pas ces informations-là. On sait par ailleurs qu'il a servi comme hoplite durant la guerre du Péloponnèse. Il n'était pas un tète, donc la plus pauvre des quatre classes, dispensé du service hopliptique. Donc, s'il avait été aussi pauvre que Platon le présentait, il aurait été exempté, dispensé du service militaire. Il ne l'était pas suffisamment, à tout le moins, pour en être dispensé, donc, du service militaire. Et sa pauvreté doit sans doute se comprendre relativement aux jeunes gens riches qui, bien souvent, faisaient partie de son entourage. Les disciples auxquels il s'adressait, c'est des gens qui étaient mieux nantis, disons, aisés même parfois. Et évidemment, il y a un clash, il y a une distanciation en termes de revenus entre ceux qui pouvaient être perçus par Socrate et ceux qui formaient son entourage immédiat. Et peut-être qu'en ce sens-là, on pouvait le dire pauvre, mais on est toujours le pauvre de quelqu'un ou on est toujours le riche de quelqu'un. C'est ça qu'il faut bien voir aussi. Donc, il a été militaire dans 3 campagnes militaires pendant la guerre du Péloponnèse. Les campagnes semblent d'ailleurs avoir été les seuls déplacements de Socrate hors d'Athènes. On a peu de références aussi à ses déplacements à l'extérieur d'Athènes. Il y a d'autres philosophes plus tard qui vont aussi peu se déplacer. On pense à Emmanuel Kant, par ailleurs. Et donc, il était confiné, d'une certaine façon, presque cloîtré, j'ai envie de vous dire, à Athènes, aux rues d'Athènes, surtout parce qu'il était dehors. Il professait dehors. Professait, oui. J'ai comme un biais naturel là-bas. Il faisait état de son savoir à l'extérieur, dehors, sur la rue. Bon. D'ailleurs, Platon, dans ses ouvrages, va montrer Socrate comme étant quelqu'un qui avait un courage physique hors du commun. Maintenant, c'est peut-être comme une histoire de pêche. On ne sait trop le comportement de Socrate lors de la guerre du Péloponnèse et des 3 campagnes qu'il a menées à titre de hoplite. Le courage dont il fait preuve, Socrate, semble-t-il physique, il est aussi politique, ce courage-là, et ce, quel que soit le régime. En fait, en -406, après la bataille des Arginuses, on va décider, sous l'influence de certains démagogues, de juger collectivement les généraux qui ont conduit cette bataille. On les juge au motif qu'ils n'ont pas recueilli les corps des morts. Ils ont laissé derrière eux les corps des morts. Et l'Empire, à ce moment-là, va vouloir les juger pour cette infraction-là qu'ils auraient commise à l'égard des corps de leurs soldats. Le hasard, littéralement le hasard, fait en sorte que Socrate se trouve alors à être membre du jury, si on veut, et même chef de l'Assemblée. Ils sont une 50aine, au péril de leur vie, finalement, et au péril de leur vie parce qu'ils vont devoir porter jugement sur ces généraux qui ont laissé derrière eux des corps de soldats, de militaires. Et plus encore, Socrate, à ce qu'on raconte toujours, aurait été le seul à s'opposer à la procédure illégale. Parce que, selon la loi d'Athènes, c'est un à un, individuellement, que ces gens-là auraient dû être jugés, et non pas collectivement. Il n'y avait pas de possibilité, selon les lois athéniennes de l'époque, de juger de façon collective les généraux qui avaient laissé derrière eux des corps des militaires. On devait le faire un à un. Son opposition n'empêche pas les généraux d'être finalement condamnés à mort. Et faut bien comprendre aussi qu'un petit peu plus tard, en 406, donc 2 ans plus tard, il va refuser Socrate d'obéir à l'ordre qui lui est donné d'arrêter un proscrit, en fait Léon de Salamine. Là encore, au péril de sa vie. Donc, à plusieurs reprises, Socrate va jouer du courage, bien sûr, du courage physique, le dit-on dans la guerre du Péloponnèse, mais aussi du courage politique, en s'exposant comme ça et en faisant valoir haut et fort son opposition au régime politique en place. Et à cette époque, littéralement, on mettait notre vie en péril. Il faut bien comprendre, d'ailleurs, qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes, c'est le centre de la vie culturelle. C'est d'ailleurs un lieu de passage obligé pour les personnalités du temps. On pense à l'historien Hérodote, encore au physicien Parménide, Anaxagore, au médecin Hippocrate, au sophiste Protagoras, Gorgias, Hippias et Prodigos. On ne sait pas non plus, quand même étonnant, on ne sait pas quelle a été la formation de Socrate. On ne sait pas du tout ce qu'il a étudié. On ne connaît à peu près rien de son éducation. Sinon que Anaxagore et Archélaos de Milet, qui lui ont été donnés comme maîtres par une tradition un peu plus tard, un peu tardive, je vous dirais. Mais Socrate va déclarer dans le Phédon avoir étudié les livres d'Anaxagore. Bon, enfin, on verra, mais on connaît encore, comme je vous le dis, somme toute, très peu de choses sur la formation de Socrate. Platon et Xénophon, ses deux disciples les plus importants, ne donnent en réalité aucun renseignement clair sur d'éventuels maîtres de Socrate. On ne sait pas trop s'il est même autodidacte, Socrate, d'une certaine façon, parce qu'on ne connaît rien de ses maîtres à penser. Plusieurs passages de Platon, d'ailleurs, le présentent comme disciple du sophiste Prodigos de Céos. Mais Socrate va être très ironique à l'égard de ce sophiste-là, donc c'est pas clair qu'il s'en est inspiré et qu'on peut considérer ce sophiste Prodigos de Céos comme étant un maître de Socrate. On va prendre une pause musicale avec Arnaud, que j'aime particulièrement, le regretté Arnaud, qui nous chante ce matin « Elle adore le noir ». Alors je vous reviens dès après, je vous rappelle que vous écoutez à bien y penser, avec au microphone Jean-François Artaud.
Je vais faire une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps, donc s'appelle « Elle adore le noir pour sortir le soir ».
Sortir le soir, elle adore.
Elle adore le noir pour sortir le soir, comme le disait Arnaud. Alors, il y a toujours une espèce de distance entre les pièces musicales que je vous fais entendre et le propos de l'émission. Bien sûr, c'est voulu, hein? Comme je le dis souvent, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas non plus de sens caché là, dans « Il adore le noir » puis « Socrate », n'essayez pas de trouver ça, vous n'en trouverez pas. Ou si vous en trouvez un, partagez-le moi, parce que moi, j'en ai pas trouvé. Revenons donc à Socrate avant de faire une pause publicitaire et parler de son enseignement public. C'est vers -435, en fait, qu'il va commencer à enseigner à Athènes, comme je le disais, dans les rues, dans les endroits publics, les stades, bon, tout ça. Et il va s'adresser comme ça, au gré des rencontres, à des gens qui l'entourent. Littéralement, c'est ses disciples. Et on a souvent représenté Socrate vêtu d'une espèce de robe blanche, une espèce de toge, là, et des sandales, parcourant la ville, puis un peu comme l'abbé Pierre, si on veut. Il va s'adresser à son entourage et va, comme ça, éduquer les gens qui l'entourent. Et je vous dis, le parallèle est un peu bancal, je l'avoue. Mais quand j'entends ça, ça me fait penser à M. Parizeau. Jacques Parizeau. Bon, quel est le lien, me direz-vous? C'est que M. Parizeau aimait beaucoup, justement, faire étalage de son savoir. D'abord, c'est une personne de grand savoir, il faut le dire, il faut reconnaître ça. C'est un intellectuel, Jacques Parizeau. Et il aimait beaucoup, comme ça, s'adresser à son entourage proche, à ses disciples, en quelque sorte. Je pense à Jean Royer, mais à d'autres aussi, qui recevaient de cette façon l'éducation de M. Parizeau. Éducation économique, bien sûr, mais éducation sur la vie politique en général. Et quand on représente Socrate de cette façon-là, ben ça me fait penser à Jacques Parizeau. Donc, une espèce de gourou. Hein, en quelque sorte, il y a quelque chose qui tient du gourou là-dedans. Donc, Socrate qui se promenait dans les rues, qui, habillé pauvrement, professait littéralement, donc faisait état de son savoir, de son questionnement à l'égard de la vie, pour en faire profiter d'une certaine façon ses disciples. On dit qu'il enseignait, mais de façon plus correcte, je pense, il questionnait, hein, et gratuitement, contrairement aux sophistes, parce que les sophistes, il faut savoir qu'eux, ils étaient payés pour donner des conseils philosophiques. C'était comme des thérapeutes philosophiques, si on veut, les sophistes. C'est réducteur de dire ça, là, mais j'utilise ces mots-là volontairement un peu pour choquer, pour provoquer. Les sophistes, eux, étaient donc payés pour prodiguer des bons soins philosophiques. Alors que Socrate, lui, avait une plus grande âme, dirons-nous. Il le faisait gratuitement. L'année 420, retenez ça, c'est une année importante, 420 avant Jésus-Christ, bien sûr, toujours, puisque c'est à ce moment-là que la pitié de Delphes aurait répondu à son ami d'enfance, Chéréphon, en disant « Il n'y a pas d'homme plus sage que Socrate. » Étonnant quand même. Donc la pitié de Delphes aurait répondu que l'homme le plus sage pour l'instant, en ce moment, si vous voulez, c'est Socrate. La philosophie, c'était un mode de vie. C'est un exercice aussi de méditation. Socrate faisait, semble-t-il, beaucoup de méditation, et c'est pas pour rien qu'on le voit souvent décrit par Platon comme étant immobile, debout même, pendant plusieurs heures, et on dit qu'il pratiquait à ce moment-là la méditation. Et c'était chose fréquente à l'époque chez les gens d'Athènes de pratiquer la méditation. On dirait d'ailleurs, on va dire de la méditation que c'est un dialogue avec soi-même. Et ça a été beaucoup pratiqué dans l'Antiquité par les philosophes. Parce qu'il n'y a pas que Socrate qui le faisait, il y a d'autres philosophes comme par exemple Pyrrhon ou Cléante qui pratiquaient aussi la méditation ou, bien sûr, le dialogue avec soi-même. On va faire une pause publicitaire et puis moi, je vais vous revenir dans à peu près 3 minutes avec la suite de À bien y penser et de notre épisode sur Socrate.
C-K-R-L. Du 26 au 28 avril, c'est le retour du Radio-Ton de CKRL. Pendant cette fin de semaine festive, nous vous offrirons des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios. C'est aussi le bon moment pour renouveler votre adhésion, miser sur une sélection de 100 lots ou faire un don. Le Radio-Ton vous sera présenté grâce à nos partenaires de premier plan suivants. La Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Fabrique culturelle et Télé-Québec, la Caisse de Limoilou et Première Ovation. Le Radio-Ton, soyez-y.
Du 29 avril au 17 mai, le Théâtre de la Bordée présente Nipple Jesus. Ce solo à la fois hilarant et captivant, mettant en vedette Charles-Étienne Beaune, est une adaptation d'une nouvelle de Nick Hornby, auteur des succès cinématographiques High Fidelity et Wild. Dave, ancien bouncer d'un bar de Grande Allée, devenu gardien de sécurité dans un musée d'art contemporain, raconte avec humour et intelligence les revirements de situation incroyables qui auront mené à ce qu'une œuvre bouleverse sa vie à jamais. Nipple Jesus, en formule 5 à 7. Réservez vos billets sur labordé.qc.ca.
Du 13 au 16 juin, le Festival de la chanson de Tadoussac, présenté par Québecor en collaboration avec Hydro-Québec, fête ses 40 ans. De Élie Sapi à Philippe Braque, en passant par Marjo ou Safia Nolin, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Chante-moi la chanson. Viens profiter du festival et célébrer avec nous 40 ans de fête avec des surprises et des concerts en pleine nature Loto-Québec. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi. Billets et passeport sur chantadoussac.com.
Ce printemps, les femmes sont à l'honneur au Palais Montcalm. La diva pop jazz canadienne Andrea Superstein célèbre la parentalité avec son concert Oh Mother. Little one, you're so lovely. You'll find your way. L'incomparable violoncelliste Joran présente Emenet Set Duo, un spectacle intimiste tout en force et en fragilité. La talentueuse Eliane Elias marie sa musique jazz à ses racines brésiliennes. Voyez-la en compagnie du respecté contrebassiste Mark Johnson. Tell me what we have. Have the day and night. Chloé Sainte-Marie propose un voyage à travers les langues et la culture des Amériques avec le spectacle Maudit Silence. Détails au palaismontcalm.ca.
Alors, on est retour à Bien y penser avec notre épisode sur Socrate. Poursuivons donc notre aventure à travers ses écrits, ses témoignages indirects de la vie de Socrate pour parler, bien sûr, tout de suite, tiens, de son procès. C'est peut-être l'élément le plus important, ou en tout cas l'élément qu'il a laissé derrière lui, qui est le plus marquant, le procès dont il a été victime au printemps de 399 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 5 ans après la fin de la guerre du Péloponnèse. C'est un procès qu'on va lui intenter pour impiété. Ces trois accusateurs, en fait, il y a d'abord un homme politique important qui s'appelait Anitos, et deux comparses d'Anitos, Mélétos, un poète, et Lycon, un orateur. Bon, ces trois accusateurs, donc Anitos, Mélétos et Lycon, vont intenter un procès à Socrate pour impiété. De façon précise, les chefs d'accusation sont les suivants, c'est-à-dire ne pas reconnaître les mêmes dieux que l'État, introduire des divinités nouvelles et corrompre la jeunesse de cette façon. Il y a 501 juges, pas rien quand même. Il y a 501 juges et sur les 501 juges, il y a 280 juges qui vont voter en faveur de la condamnation de Socrate. Donc 221 qui, eux, vont voter plutôt pour acquitter Socrate. Platon, toujours Platon, va indiquer que la condamnation s'est faite avec une très faible majorité à 30 voix près. Bon, encore là, vous le voyez, il y a une espèce de dichotomie entre la réalité telle qu'elle nous l'est rapportée par les écrits, par d'autres témoins que Platon. Mais Platon va dire que la condamnation a été déclarée par une très faible majorité. Invités à proposer une peine, les accusateurs, Mélétos, entre autres, va demander la peine de mort. Socrate, à ce moment-là, va demander à être nourri aux prytanées, c'est-à-dire un honneur qui était réservé aux citoyens les plus méritants. D'être nourri, donc, aux prytanées. Les juges votent alors en faveur de la peine de mort. Les commentateurs contemporains sont partagés sur l'interprétation à donner à ce procès, c'est-à-dire qu'il y a certains qui pensent que les chefs d'accusation sont les véritables motifs du procès, alors que d'autres pensent, au contraire, qu'ils sont, ces chefs d'accusation-là, une forme de prétexte et que les véritables motifs du procès qu'on va intenter à Socrate sont des motifs de nature politique. Autrement dit, Socrate occupait une trop grande place sur l'échiquier politique d'Athènes de l'époque, et on devait d'une certaine façon le freiner, voire même peut-être l'éliminer. Il dérangeait politiquement, j'en ai parlé tantôt, il mettait sa vie en péril, mais en mettant sa vie en péril, parfois on remporte les batailles, parfois on les perd aussi, et on trouvait probablement en haut lieu de la politique athénienne que Socrate dérangeait trop. D'ailleurs, à propos du premier chef d'accusation, c'est-à-dire de ne pas respecter, de ne pas vénérer les mêmes dieux que l'État, la question s'est posée de savoir ce qu'on reprochait exactement à Socrate. Est-ce qu'on lui reprochait d'être athée, donc de ne pas croire du tout aux dieux, ou encore d'être impie, c'est-à-dire de ne pas honorer les dieux d'Athènes? Étonnamment, ses disciples ne présentent jamais Socrate comme étant quelqu'un d'athée, même si Socrate, on le disait, ne croyait pas aux fables des poètes sur les dieux. Il n'est pas non plus présenté comme un impie. Et ce dernier point d'être impie, de faire preuve d'impiété, si on veut, ne peut à lui seul servir à comprendre la raison du procès. La possibilité même d'un procès pour impiété à Athènes n'est pas assurée à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est étonnant qu'à Athènes, on mette en place un procès pour impiété. Il y a quelque chose d'un peu saugrenu là-dedans. Et c'est ce qui va faire dire à plusieurs des commentateurs que, véritablement, le procès qui est intenté à l'égard de Socrate, c'est un procès politique. Quant au chef d'accusation relatif à l'introduction de nouvelles divinités, il va être mis en relation, ce chef d'accusation-là, par à la fois Platon et Xénophon, avec le signe divin de Socrate. Ça, c'est intéressant parce que dans les nuées d'Aristophane, là, dans l'écrit, les nuées d'Aristophane, Socrate va être présenté comme un physicien. Hein, il va substituer ainsi aux anciens dieux des entités telles que les nuées, la langue ou encore le vide. Mais le signe divin de Socrate n'apparaît nulle part dans la pièce d'Aristophane, encore une fois, les nuées, et il est possible que ce chef d'accusation soit la manifestation d'une certaine forme de jalousie des Athéniens envers ce qui pouvait apparaître comme étant une faveur des dieux. Quant à Socrate, rappelez-vous, on a dit de Socrate qu'il était l'homme le plus sage du moment. Alors, c'est probablement que tout ça a suscité une forme de jalousie, à tout le moins chez les bien-pensants, chez les hommes de pouvoir, chez les politiciens de l'époque, et que c'est peut-être pour ça qu'on a finalement déposé un chef d'accusation relatif à l'introduction de nouvelles divinités. Quant au dernier chef d'accusation, c'est-à-dire l'accusation de corrompre la jeunesse, elle est liée, en tout cas c'est ce que Platon fait, cet élément-là de corrompre la jeunesse à l'impiété. La révélation en public de l'ignorance de certains se croyant savants par Socrate et les jeunes gens qui vont le suivre, justement, ainsi que l'influence qu'on attribuait de Socrate sur certains de ses disciples, vont faire en sorte que les gens qui se croyaient être bien pensants, avoir une tête bien sculptée, bien formée, bien, ils vont se retrouver insultés parce que Socrate, publiquement, dans les rues d'Athènes, va dénoncer leur mauvaise façon de penser en disant « Voici là où ils ont eu tort, voici là où ils ont fait fausse route, voici, je vais vous démontrer comment il se fait que ces gens-là n'ont pas suivi les règles de la logique et qu'ils ont donc une argumentation qui est fautive. » Pour plusieurs, la véritable raison de la condamnation de Socrate tient au caractère agressif de sa mission publique. Il dérangeait, littéralement. C'est-à-dire qu'il se sentait, Socrate, obligé de débattre avec tout un chacun dans les rues d'Athènes. C'est un fatigant, finalement. Socrate comme un fatigant. C'est mon prochain livre. Non, mais il dérangeait, littéralement, parce qu'il faisait œuvre utile sur la rue et n'avait aucune réserve quant aux critiques qu'il pouvait porter au pouvoir de l'époque. Vous l'avez vu, dans le procès, on va finalement le condamner à mort. Il y a une majorité des 501 juges qui va le condamner à mort. Et il y aura un mois qui va s'écouler entre la condamnation de Socrate et sa mort. Un mois pendant lequel il va rester enchaîné, littéralement, dans la prison des 11. Ses amis vont lui rendre visite, vont s'entretenir avec lui quotidiennement. Et deux dialogues de Platon ont dit que deux de ces dialogues sont censés se dérouler pendant cette période d'emprisonnement de Socrate, c'est-à-dire le Criton et le Phédon, deux dialogues de Platon. Le jour venu, Socrate, c'est connu, boit un poison létal, la ciguë en fait, en présence de Apollodore, de Phalère et de Criton, de même que de son fils Critobule, d'Hermogène aussi, d'Épigénèse, d'Échine, d'Antisthène, de Mexénène, de son cousin Ctésippos, de Péanie et de quelques autres. Donc c'était un peu un geste public qu'il a fait en buvant la ciguë et en se donnant ainsi la mort. Le poison d'État, la ciguë, contenait probablement, en tout cas c'est ce qu'on dit, une préparation à base de sucre de grande ciguë qui est associée à du datura et de l'opium. Pourquoi on faisait ça? Bien, d'abord pour augmenter l'effet toxique de la ciguë, mais aussi pour réduire la souffrance et neutraliser surtout les spasmes physiques, les spasmes musculaires qui suivaient généralement l'absorption de la ciguë. En choisissant de mourir, Socrate affirme la primauté de la vertu sur la vie. La vie du corps est subordonnée à la pensée. C'est ce qu'il a voulu démontrer, bien sûr, en se disant « Je me donne la mort, mon corps va mourir, mais ma pensée va demeurer, ma pensée va perdurer. » Il y a cette espèce de dualité entre le corps physique, si on veut, chez l'humain, et l'âme, le corps spirituel, tiens, disons ça comme ça. D'ailleurs, l'événement de la mort de Socrate, c'est à l'origine du platonisme dans lequel le bien, on dit que le bien avec un grand B, bien sûr, est supérieur à toute chose. C'est le bien qui règne, c'est le bien qui montre la voie. Et on va dire que finalement, philosopher, c'est un exercice spirituel d'apprentissage de la mort. Moi, je me suis rendu compte de ça personnellement tard, assez tard, trop tard probablement dans ma vie, que philosopher et se connaître soi-même, d'une certaine façon, c'est d'apprendre la mort. C'est d'apprendre qu'on a une fin, que tous ont une fin, et qu'à la fin, qu'est-ce qui va compter finalement? Est-ce que c'est les voitures? Est-ce que c'est notre compte de banque? Est-ce que c'est nos pensées? Il y a des choix à faire. Et on n'est pas, comme le disait Dumbledore dans Harry Potter, on n'est pas le résultat de nos habiletés. On est le résultat de nos choix. Et Socrate va enseigner très clairement que philosopher, c'est un exercice spirituel d'apprentissage de la mort. Les vrais philosophes s'exercent à mourir et ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. C'est cette profession-là que va faire Socrate à travers les écrits de Platon. Il s'agit donc, dans une forme de platonisme, de mourir en son corps, de mourir à soi, et de devenir une espèce de phénix, c'est-à-dire de renaître de ses cendres, mais de renaître spirituellement, philosophiquement, si on veut. Donc, il faut mourir en son corps, ses passions et son individualité, donc mourir à sa propre singularité, si on veut, pour s'élever à un niveau universel de la pensée. Cette idée-là de la philosophie qui propose une espèce d'apprentissage de la mort se retrouve beaucoup dans une grande partie de la philosophie occidentale. On pense aux stoïciens, par exemple, ou encore chez Montaigne, mais aussi chez Heidegger. Donc, cette idée-là va perdurer très, très, très longtemps, c'est-à-dire d'apprendre la mort. Puis moi, je la partage, cette idée-là. Je crois fermement en ça. Je pense qu'on devient libre, libéré de nos déterminismes, si on veut, disons ça comme ça, lorsqu'on apprend davantage à apprivoiser la mort. D'une certaine façon, la mort dirige notre vie. Il ne s'agit pas d'en faire une obsession, bien sûr, mais cette conscience-là de la fin, de la finitude, fait en sorte que, ou en tout cas l'opportunité nous est donnée, d'avoir une meilleure vie. On va écouter Bory là-dessus, avec « On s'aimait d'où ».
Plus marcher sur la plage, flâner sans parler à personne. Traces d'idées noires, ces mots sans horizon, chemins à nu sans passion. Elle s'est engourdie d'un froid qui lasse, chasser les rencontres d'automne. Va de peu d'éclat en soyeux déserté, pensant le temps passé froissé. On s'aimait d'où, m'en aller où? Elle s'endort au vol des oies sauvages, perdu l'envie d'autres pays. Traîne à effacer les sillons argentés sous un ciel d'étoiles échappées. Se laisse aller au creux des vagues, là où la vie vient la doubler. De jour elle tourbillonne d'en avoir si peu fait, de nuit cherche à se pardonner. On s'aimait d'où? On allait où? C'était une jolie fille, une fille jolie. C'était une jolie fille. Au goût de rire et chanter, à ce miracle des jardins d'été, un bonheur frileux venu flirter, tendresse bleue. C'était une jolie fille, une fille jolie. C'était une jolie fille.
Présente souvent Socrate comme étant le premier philosophe digne de ce nom, en tout cas le premier qui a laissé une trace suffisamment profonde pour qu'on en parle encore tant d'années après. Il faut bien comprendre aussi que, quand même, avant Socrate, il existait des individus qu'on désignait comme étant sages, c'est-à-dire qui faisaient preuve de sophia, de sagesse, de savoir ou encore même de savoir-faire, dirons-nous. Tiens. Donc ces sages, ces maîtres de vérité, ou de sagesse, puis je dis pas ça avec ironie, là. On les désignait ainsi à l'époque des maîtres de vérité. Ça représentait une forme d'aristocratie, c'est-à-dire que c'était un groupe sélect, tiens, disons ça comme ça. Tandis que les sophistes, qui affirment pouvoir enseigner le savoir à tous, contre paiement, bien sûr, et c'est ce qui leur aura nuit finalement, ou en tout cas c'est ce que retient l'histoire de leur passage aux sophistes, c'est qu'ils demandent paiement pour pouvoir enseigner le savoir. On va présenter les sophistes comme étant le versant démocratique, le versant plus à gauche, tiens, relativement à cette aristocratie qui s'était créée à travers les sages, à travers les maîtres de vérité. Socrate, lui, va s'opposer aux uns et aux autres, et il va s'imposer d'une certaine façon comme étant le premier philosophe, tel que défini, en tout cas, pour la première fois, par Platon, encore une fois, encore Platon, encore et toujours Platon, dans Le Banquet. Il va présenter Socrate comme celui qui est non sage, mais qui désire la sagesse, sachant donc qu'il ne la possède pas encore. Donc cette quête de la sagesse va amener Platon à désigner Socrate de premier philosophe. Il va remettre beaucoup en question, Socrate, aussi l'individualité. Et cette remise en question se trouve dépassée, justement, dans le dialogue entre un individu et un autre, bien sûr. Dialogue fondé sur la raison pour atteindre l'universalité. Par la suite, pour toutes les écoles philosophiques de l'Antiquité, la figure du sage est avant tout un idéal, une espèce d'objectif à atteindre. Et toutes les écoles philosophiques, à part peut-être l'épicurisme, toutes les écoles philosophiques s'accordent pour reconnaître que Socrate, celui qui ignore justement qu'il est sage, est une incarnation de cet idéal de la sagesse. Je veux aussi vous entretenir un peu du Socrate de Platon, parce qu'il existe plusieurs... Comment être juste dans ces propos-là? Il existe plusieurs déclinaisons de Socrate. Tiens, disons ça comme ça. Alors, Socrate, pour les uns, aura été telle personne, pour les autres, aura été une autre personne, parce qu'encore une fois, il ne reste pas décrit de la main de Socrate. Ça n'existe pas. Donc, on doit l'apprivoiser, on doit apprendre à le connaître à travers les autres. Et à travers les autres, bien nécessairement qu'on a le biais justement de ces autres-là qui nous présentent à leur façon, bien sûr, qui était Socrate pour eux. Le Socrate de Platon est intéressant à bien des points de vue. C'est probablement celui-là qu'on connaît le plus, d'ailleurs. Et il y a un commentateur qui s'appelle Grégory Vlastos qui indique qu'il existe chez Platon deux philosophes portant le nom de Socrate, pratiquant, pour ainsi dire, deux philosophies opposées d'une certaine façon. D'abord, le premier Socrate, qui apparaît dans les dialogues de Genèse de Platon. On pense à l'Apologie de Socrate. En fait, on l'a lu pas mal au cégep, l'Apologie de Socrate. Bon, on pense aussi à le Charmide, le Criton, le Tryphon, bon, les écrits de Genèse, qui sont tous des dialogues réfutatifs et qui sont suivis de dialogues de transition, donc. Mais il y a aussi un deuxième Socrate qui va apparaître, lui, dans un deuxième groupe de dialogues, ceux de la période intermédiaire de Platon. On pense au Critalide, au Phédon ou encore au Banquet dont on parlait tantôt, ou encore à la République. Socrate devient le porte-parole de sa propre philosophie. C'est le premier. Hein, il ne peut pas... Et puis on l'a dit, là, on connaît à peu près pas son éducation, on connaît encore moins ses maîtres à penser. Donc, Socrate va devenir le porte-parole de sa propre philosophie. Beaucoup le font aujourd'hui, me direz-vous. C'était peut-être un avant-gardiste, on va savoir. Donc, Socrate devient le porte-parole de sa propre philosophie. Et Vlastos, justement, Grégory Vlastos, qui est un commentateur, va identifier ainsi 10 points sur lesquels le Socrate des dialogues de Genèse est en opposition avec le deuxième Socrate, c'est-à-dire celui des dialogues de la période intermédiaire. La philosophie du premier Socrate, par exemple, est seulement morale. Hein, c'est une philosophie morale dont il s'agit dans le premier Socrate, alors que dans le second Socrate, c'est aussi une forme de philosophie métaphysique, un épistémologue même, un philosophe de la science même si on veut, même du langage d'une certaine façon. Donc il y a tout un dénombrement des différentes facettes de Socrate, facettes qui nous sont offertes dans les écrits de Platon nécessairement. Donc on va désigner ce Socrate du Socrate de Platon. La mission de Socrate, c'est Henri Bergson qui disait ça dans les deux sources de la morale et de la religion. Henri Bergson disait « La mission de Socrate est d'ordre religieux et mystique au sens où nous prenons aujourd'hui ces mots, c'est-à-dire son enseignement, si parfaitement rationnel, bien son enseignement de Socrate est suspendu à quelque chose qui semble dépasser la pure raison. » Donc, il y a une espèce de forme de divinité, si on veut, dans l'enseignement de Socrate. L'oracle de Delphes est au commencement de la vie philosophique de Socrate. On l'a vu, hein? L'oracle lui disait de Socrate qu'il était la personne la plus sage. Ainsi qu'il le raconte, selon l'Apologie de Socrate, de Platon, la pitié de Delphes répond à son ami Chéréphon, comme je vous le disais, que Socrate est le plus sage des hommes. Socrate, en fait, il va s'employer à résoudre l'énigme de la pitié, c'est-à-dire, sachant qu'il ne sait rien, comment peut-il être plus sage que ceux qui sont réputés savoir ou que ceux qui pensent savoir? Alors, ce qu'il va faire, Socrate, à ce moment-là, c'est qu'il va interroger les hommes politiques, les poètes, les artisans, les importants de l'époque, si on veut. Et dans tous les cas, ces gens-là vont se révéler comme étant doublement ignorants, c'est-à-dire croyant connaître ce qu'ils ne savent pas et aussi ne sachant pas qu'ils sont ignorants. Et c'est peut-être la pire classe de personnes, ça. Quand tu sais que tu ne sais pas, il y a moyen de discuter avec une personne comme ça. Mais quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, ou quand tu penses savoir, la discussion devient difficile. Donc, de ce point de vue-là, Socrate est présenté comme étant le plus sage des hommes, puisqu'il ne croit pas savoir ce qu'il ne sait pas. Il est en quête continuelle de savoir. Et pour Socrate, seuls les dieux détiennent le véritable savoir. Le philosophe, c'est celui qui désire, hein, qui désire ce savoir. Mais la détention du savoir, la propriété du savoir, est entre les mains des dieux. Or, bien sûr, tout un chacun peut être philosophe. Aussi parce que le dieu de Delphes a cité son nom, Socrate pense avoir pour mission de révéler aux hommes leur ignorance et de se préoccuper plutôt de leur âme que de leur corps ou encore de leur bien matériel, afin qu'ils s'améliorent. C'est l'âme qu'on doit améliorer, pas les conditions matérielles. C'est en réalité à plusieurs reprises que l'ordre d'interroger les citoyens d'Athènes lui a été donné par les dieux. C'est le dieu qui m'a prescrit cette tâche par des oracles, par des songes ou encore par tous les moyens dont un dieu quelconque peut user pour assigner à un homme une mission à remplir. Donc, pour Socrate, et on va terminer là-dessus, la relation entre la philosophie et la religion, soit que la première soit subordonnée à la seconde, donc que la philosophie soit subordonnée à la religion, ou encore soit que la philosophie est autonome par rapport à la religion, eh bien, cette relation-là, c'est l'un des importants problèmes posés dans l'interprétation de la philosophie socratique. Qu'est-ce qui est le plus important, la philosophie ou la religion? On va prendre des milliers d'années pour répondre à ça. Et c'est ce que je vais vous proposer à travers nos prochains épisodes d'À bien y penser. Quelques instants pour vous remercier encore une fois d'avoir été à l'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, à tout le moins tout autant que le plaisir que j'ai obtenu en le préparant. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez de cette belle journée ensoleillée. Trouvez-vous des moments de bonheur, comme je le vous dis toujours. Dites aux gens qui vous entourent que vous les aimez. C'est important, on ne le fait jamais assez. Et puis portez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, comme à toutes les semaines, de 9h à 10h, pour un autre épisode d'À bien y penser. Avec au microphone, Jean-François Arthaud. Passez une très belle journée. Allez.
CKRL.
Salut, ici David Bugeaud de Fudge. Cette année, on a l'honneur d'être porte-parole artistique du Radioton de CKRL. Les 26, 27 et 28 avril prochains, on t'invite à te joindre à nous autres et à donner généreusement. Parce que CKRL, c'est une radio différente qui joue un rôle essentiel à la culture d'ici. Le Radioton de CKRL, c'est le rendez-vous annuel pour soutenir ta station communautaire préférée. Manque pas ça!
Et si le principe de la cohérence cardiaque s'appliquait à votre organisation? Chez Perseus, tout est une question de cohésion. Notre équipe s'assure que votre organisation soit dotée d'une stratégie solide et fidèle à vos valeurs. Plan de communication, outils technologiques, images de marque, sites web, médias sociaux, promotion, développement stratégique et tactique. Perseus. Accompagner, développer, communiquer. PerseusTactique.com 581-781-1333.
Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Amplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 25 $.
Ce printemps, les femmes sont à l'honneur au Palais Montcalm. La diva pop jazz canadienne Andrea Superstein célèbre la parentalité avec son concert Oh Mother.
Little one, you're so lovely. You'll find your way.
L'incomparable violoncelliste Joran présente Eménette 7 Duo, un spectacle intimiste tout en force et en fragilité. La talentueuse Eliane Elias marie sa musique jazz à ses racines brésiliennes. Voyez-la en compagnie du respecté contrebassiste Mark Johnson.
Tell me what we have.
Chloé Sainte-Marie,
propose un voyage à travers les langues et la culture des Amériques avec le spectacle « Maudit silence ». Détails au palaismontcalm.ca.
Univers.